Le podcast La Chamane est un espace de réflexion libre qui jette un regard hors du commun sur des sujets et des problématiques de tous les jours. Médiumnité, chamanisme, psychologie, neurosciences, intuition, santé holistique et j'en passe. Je suis Amy Gale, votre chamane qui décortique avec vous de nombreux sujets qui ont un impact profond sur nos vies. Toujours avec comme mission la croissance spirituelle et l'épanouissement de chacun. Alors, bonjour. Oui, j'ai été absente la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est pas que j'ai pas travaillé sur le podcast, c'est plutôt que j'ai enregistré deux possibilités, que finalement, j'étais pas satisfaite de chacune des deux séparément, mais j'ai décidé de les mélanger ensemble. Alors, dans cet épisode-ci, je vais vous parler de la créativité, je vais vous lire des extraits du livre « Comme par magie » de Elizabeth Gilbert. Je vais aussi vous parler d'une plateforme que je viens de rejoindre, en fait, d'une communauté qui s'appelle Solution Era, une entreprise qui existait déjà, qui est dans les maisons écologiques. Mais dans le fond, je viens de joindre leur communauté en ligne, qui est vraiment dans le développement personnel et sur comment créer la vie qu'on souhaite, en fait. Alors, je vais vous parler de ça. Je souhaite aussi faire un retour d'abord sur le dernier épisode et aussi vous poser la question, est-ce que vous appréciez les lectures de livres? Parce que je vous mets souvent, je vous lis des extraits en fait de livres que je lis, de livres que j'aime, de livres qui m'ont marqué. Eh bien, je veux m'assurer que ça répond à un besoin pour vous, que vous appréciez, parce que sinon je vais aller vers un autre créneau. Et comme en fait les épisodes que je fais où je lis des extraits de livres, j'ai très peu de retours en fait. J'aimerais savoir si c'est quelque chose que vous aimez, sinon ça va me faire plaisir d'aller vers une autre direction, parce que comme je dis toujours, le but c'est de communiquer avec vous, de connecter, et je fais pas l'épisode simplement pour moi-même. Alors, on y va, je vais commencer en vous parlant du dernier épisode, qui était sur la joie inconditionnelle. J'espère que ça vous a servi. Pour moi, c'est quelque chose de très important, mais bien sûr, je sais que c'est pas quelque chose de simple. Je vous ai parlé de la technique de Carole Boucher de fermeture des portes, et je vous ai parlé du livre de la joie avec le Dalai Lama et Desmond Tutu. Vous entendrez probablement mon chat, je suis désolée. Pour moi, c'était une belle prémisse, et puis en même temps, je tiens vraiment à rester réaliste et honnête et authentique sur ce que je vous partage. Donc, bien sûr, j'ai fait cet épisode-là de tout cœur, en étant sincère et en incarnant le thème. Et en même temps, je sais très bien que c'est vraiment pas quelque chose de facile à appliquer. Pour faire suite à ça, en fait, j'avais envie de vous partager un peu comment j'ai vécu ma quête vers la joie inconditionnelle. Dans les derniers 10 jours, ça fait quand même un petit bout de temps que je vous ai posté l'épisode. D'abord, j'ai lancé l'épisode en étant justement très sincère. Puis, je me suis aperçue que sans avoir une certaine vigilance, surtout quand on commence une nouvelle habitude, on replonge facilement dans nos automatismes. C'est normal, je vous ai déjà parlé de comment le cerveau inconscient ou subconscient est construit. Il cherche toujours le chemin le plus évident, le chemin qu'il connaît. Et tout ce qui est en dehors de ça, pour lui, c'est de l'inconnu, ça fait peur, c'est étrange, c'est pas authentique. Donc, on va se retrouver à être peut-être véritablement heureux parce qu'on va avoir fait les efforts pour. Et pourtant, notre inconscient va donner l'impression à notre conscient que c'est pas vrai. Alors, même l'amour, j'en avais parlé beaucoup. Dans l'épisode sur, si je me souviens bien, sur l'année 2018, je vous ai parlé du fait que pour quelqu'un qui a vécu peu d'amour dans sa vie, voir un amour réel, vrai, sincère, peut paraître inauthentique. Ça frise la maladie mentale, à quel point c'est hallucinant, qu'est-ce que ça peut faire pour nous une habitude. Ça devient notre seule et unique réalité et à ce moment-là, ce qui sort de cette réalité-là, pour nous, est impossible. Ça peut être extrêmement difficile de sortir de cette perception-là, de cette réalité-là, de cette réalité parallèle dont je vous ai parlé aussi dans un précédent épisode, de ce paradigme-là. Et vous savez, la définition d'un paradigme, c'est que c'est une réalité absolue, une réalité dont on est certain qui existe et ça va définir notre regard, ça va définir les lunettes, la teinte de nos lunettes par lesquelles on voit la vie au fond. On la ressent, on l'expérimente. à partir du moment où on s'aperçoit qu'on est pris dans un paradigme, c'est super important d'abord de juste s'aimer là-dedans et puis de voir comment est-ce qu'on peut en sortir. Et justement, par rapport à la joie, vous savez, je vous ai parlé très souvent du fait que j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée. Alors pour moi, les périodes de joie qui ont été durables dans ma vie, je vous dis qui ont duré quelques semaines, quelques mois, étaient souvent totalement aléatoires, spontanées. Ça me tombait dessus comme ça. Mais quand arrivait un élément anxiogène, je retombais finalement dans mon paradigme d'origine, le paradigme que j'ai nourri depuis mon enfance qui dit que le monde n'est pas sécuritaire, que je ne peux pas être moi-même, que c'est impossible de vivre ma vie par mes propres termes, donc en faisant ce que j'aime, en alimentant la vision que j'ai de la vie. Donc tout ça, en fait, me faisait, comme on dit en bon québécois, prendre une débarque. Me faisait tomber, me faisait chuter, me donnait le vertige. En prenant conscience de ça avec le temps, ce qui est possible, en fait, c'est de développer des outils qui permettent justement d'être plus constant dans son état. Alors, c'est ce que moi-même, je fais depuis bientôt un an. J'utilise énormément l'aromathérapie, les huiles essentielles pour ça. Et ça me permet d'avoir un petit confort, comme un baume en fait, dans tout le travail en profondeur que je fais au niveau du développement personnel, de la psychologie, du shadow work, dont je vous parle souvent aussi, qui est d'aller en fait regarder les blessures pour les apporter dans la conscience et ensuite réussir à aller par-dessus ça en fait. Ce que j'ai fait pour m'aider au niveau de la joie inconditionnelle, d'abord j'ai réintégré beaucoup plus souvent dans mon quotidien l'entraînement physique. Donc je suis une cycliste par passion, je suis loin de faire des compétitions, mais pour moi faire du vélo à tous les jours en fait, ça règle énormément de problèmes. Ça me rend très équilibrée, ça me permet d'avoir des endorphines, d'extirper mon anxiété de moi. Et ça me rend beaucoup plus énergique, beaucoup plus rayonnante. Mes idées se placent beaucoup mieux dans ma tête. Je suis plus positive. Ça fait longtemps que j'ai réalisé ça. Parfois, je laisse ça tomber, puis je m'enlise dans ma bouette, comme on dit encore en bon québécois. Donc, dans mes problèmes, dans mon ancien paradigme que pourtant, je souhaite réellement dépasser. Et j'écoutais une vidéo de David Lefrançois hier. Il parlait en fait du fait que quand on est dans un état souffrant, on peut être juste douter de soi, manquer de motivation. Tout ce qui nous permettrait réellement de nous sentir bien nous paraît en fait ennuyant. Donc par exemple, vous êtes vraiment pas bien, si vous avez tendance à vouloir manger quand vous êtes pas bien, donc que ce soit manger quelque chose de salé, de gras ou de sucré. Je prends cet exemple-là parce que moi-même, j'ai tendance à manger mes émotions et je dois rester vigilante là-dessus. J'ai clairement eu un trouble alimentaire d'hyperphagie à certaines périodes dans ma vie. Ça, c'est une façon simple de recevoir de la dopamine, d'avoir une hormone du bonheur et d'extirper le stress. Mais toutes ces façons comme manger, comme, je sais pas, écouter la télé, boire de l'alcool, c'est des fuites faciles, mais qui ne vont, selon les études encore, même David Lefrançois est un neuropsychologue, et les études dont lui parlait, en fait, disaient que ça n'aura aucun impact sur l'état. Donc, on va pire, on risque de se sentir encore moins bien. Il donnait l'exemple d'une femme qui va manger du chocolat. C'est un cliché, mais je le fais moi-même et beaucoup de femmes que je connais le font. Surtout dans le SPM ou certaines périodes où on se sent vulnérable, on va vouloir manger du chocolat. Mais après, on va se sentir encore plus mal parce qu'on a mangé toute la palette de chocolat. Ou parce qu'on fait de l'hypoglycémie comme moi, ou peu importe. Donc, ce qui est important, c'est d'aller vers ce qui va réellement faire un changement, mais à nos yeux, quand on se sent pas bien, ça paraît totalement ennuyant d'aller prendre une marche. Et c'est bien, c'était très bien qu'il l'explique dans son vidéo. Je vous mettrai le lien du vidéo dans les notes de l'épisode sur le blog ethicaveridis.ca/blog. Et dans le fond, c'est ça. C'était très bien qu'il puisse l'expliquer. Comme ça, on comprend notre mécanisme. On comprend d'où vient la procrastination. C'est que quand on est dans cet état-là, tout, absolument tout, nous semble demander un effort épouvantable et être absolument ennuyant. Mais à partir du moment où on se laisse aller, on accepte d'aller prendre une marche en forêt, d'aller marcher sur le bord d'un lac, de partir en vélo, tout ça, en fait, quand on s'abandonne à l'activité, on se sent mieux. Mais c'est cette période-là où il faut sortir dehors et se préparer à le faire qui est souvent très difficile. Et c'est à force de le pratiquer qu'on finit par vraiment le faire de façon plus automatique et par comprendre l'ampleur de ce bienfait-là. Donc ça, c'est une chose que j'utilise pour améliorer ma joie inconditionnelle parce que ça me permet de chasser le stress et de ne pas rester dans un état léthargique et stagnant. Une autre chose que j'ai intégrée dans ma vie, c'est le yoga. J'essaie d'en faire à tous les jours, même si parfois c'est 5 minutes. Pour tenir cet engagement-là, je suis allée à une conférence il y a 2 semaines sur différents sujets, la pleine conscience, le yoga. Et puis la femme qui était là était absolument magnifique et j'ai pris l'engagement suite à sa conférence de faire du yoga à tous les jours. Il y a certains jours où j'y arrive pas ou où j'oublie, mais c'est un processus. Et l'idée, c'est de juste pas abandonner cet engagement-là. Donc même si une journée on le fait pas, il faut pas se dire « Oh non, j'ai encore abandonné, j'ai encore pas réussi, j'ai encore pas respecté ma personne, ma parole, je suis jamais quelqu'un qui arrive à atteindre ses engagements, ses objectifs. » Donc il faut tout simplement laisser tomber ça. La vie, c'est vraiment un processus. Il y a aucune fin en soi, c'est toujours un processus, donc on coule avec le processus. Et on fait juste accepter que le lendemain, on va le faire. Il faut surtout pas se conditionner à l'idée que parce qu'on a abandonné une fois, on va abandonner toujours. Alors, parce que à ce point-là, si on croit à ça, si on voit notre vie comme ça, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va prendre un énorme élément déclencheur pour nous bouleverser, pour nous shaker, comme on dit. Ça va être la seule façon, si on se rend à ce point-là, pour changer. Alors, attendez pas d'être rendu là, attendez pas que votre monde s'effondre ou s'écroule ou devienne instable ou menaçant pour que vous changiez. On n'a pas besoin de ça. On se rend là quand on bouge pas, mais quand on fait les efforts, on n'a pas besoin de se rendre là. Aller dehors, aller au soleil, aller en forêt, chanter. Donc, c'est toutes des choses dont je vous ai déjà parlé pour élever la vibration, mais vraiment, ça demande cette vigilance-là si on veut vivre dans la joie. Et le journal de gratitude, c'est absolument extraordinaire. Pour les gens qui font de l'anxiété, prendre conscience que de toutes les beautés qui sont autour de vous et en fait, réaliser qu'elles vont pas disparaître. Il y a beaucoup de personnes qui ont la peur de l'abandon. Et reconnaissez les bijoux autour de vous et dites-vous que ces personnes-là vous aiment autant que vous les aimez. Donc, il y a ça. Une autre chose, en fait, dont je voulais vous parler, qui est absolument nécessaire si on veut progresser, en fait. Il y a un livre que j'ai déjà mentionné, je crois, dans les premiers épisodes, qui dit, en fait, que nous sommes le résultat des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. C'est très basique, c'est absolument essentiel. Et pour les gens qui n'ont pas accès nécessairement, qui sont dans un milieu qui est peut-être pas très positif ou même qui est toxique, si vous êtes dans une relation amoureuse qui est toxique ou peu importe, une mère au foyer qui est avec ses enfants la plupart du temps, si vous n'avez pas accès dans votre environnement immédiat à 5 personnes qui vous permettent de vous élever, eh bien, c'est tout simplement d'aller vers des livres, vers des balado-diffusions, des podcasts comme celui-ci ou peu importe ce qui vous parle, des livres audio, c'est extraordinaire aussi. Allez sur YouTube, cherchez des YouTubeurs qui vous parlent, des coachs, vous n'avez pas toujours besoin de payer, il y a tellement de ressources qui sont gratuites sur Internet. Allez chercher ces gens-là qui vont vous élever. Cette semaine, j'ai commencé à écouter beaucoup plus Gary V. Vaynerchuk, qui est... À la base, me parlait pas tant que ça parce que son approche d'entrepreneuriat est vraiment dans le hustling qu'on appelle en anglais. Donc, c'est rush, 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 travail, travail, travail. Il travaille 15-16 heures par jour depuis des années, même s'il est père de famille et il assume complètement ça. Il a souvent, en fait, eu 2 emplois en même temps. Donc, en fait, il travaillait pour l'entreprise familiale et l'autre partie du temps, il travaillait à développer ses projets à lui. Donc, il roule, en fait, une super grosse business et en même temps, il est sur les réseaux sociaux en train de travailler son côté coach aidant, en fait, pour les gens, pour inspirer. Ben, en fait, ce que j'aime de lui, c'est qu'il se donne pas d'excuses. Peut-être que j'irai pas jusqu'à travailler 16 heures, c'est pas le style de vie que je souhaite, même si je me considère workaholic et que parfois j'ai pas l'air de travailler, mais mon cerveau tourne tellement. c'est clairement un surdoué, c'est quelqu'un qui est très allumé et qui est très inspirant. Donc j'ai commencé à l'écouter et ça m'a donné un bon coup de pied dans le derrière. Puis aussi, en fait, j'aime bien découvrir dans la francophonie parce que je m'abreuve énormément de ce qui existe en anglais. Et puis, je viens juste de voir que Francis Gendron, qui a lancé, en fait, Solutionera il y a quelques années, qui est sur les habitations écologiques, vient de lancer quelque chose de très nouveau sur sa plateforme, en fait, qui est une communauté de développement personnel, dans le fond, de croissance. Et dans le fond, je viens tout juste de m'inscrire, j'ai décidé ça ce matin. Et en fait, je peux vous donner là, quelques thèmes qui sont abordés sur la plateforme et je vous conseille fortement de vous inscrire si ça vous parle. Je pense qu'il reste encore 8 jours pour s'inscrire. J'avais déjà participé à une communauté du même type en anglais en fait qui s'appelait Origine Collective. Je peux dire que c'était le même prix, c'était 30 US, donc pas mal d'équivalent en canadien. Et j'avais vraiment, vraiment pas la même quantité ni même la même force de contenu qu'on retrouve ici. Je viens juste de rentrer, ça fait même pas 24 heures. Je peux dire en comparaison avec quelque chose que j'ai connu qui était au même prix et qui était par quelqu'un de Kate Northrup qui est extraordinaire, mais c'était très redondant. Il n'y avait pas autant d'informations que j'aurais cru pour ce prix-là. Ce qui était intéressant, c'était la force de la communauté. Alors, les gens créaient des liens ensemble, mais comme c'était en anglais et que moi, je travaille en français, ben, je pouvais pas nécessairement recevoir le support, avoir vraiment le réseau de contact qui va aider au niveau du travail, en fait. Donc, en français, c'est absolument extraordinaire. Et je vous donne rapidement, en fait, les 6 piliers qui sont abordés. Et le principe, en fait, c'est que à chaque mois, c'est un pilier différent. On va travailler dans une année, on va voir 2 fois les mêmes piliers. Alors, ça permet de faire un retour, tout simplement. Vous savez, moi, je travaille avec le cycle lunaire. Alors, à chaque mois, justement, j'axe sur quelque chose que je souhaite travailler. Et puis, je fais un retour le mois suivant, finalement. Donc, c'est un peu le même principe. À chaque mois, on va avoir un pilier et 6 mois plus tard, on revient sur le même qui nous permet de continuer à croître, de rester conscient parce que, comme Francis le dit, en fait, quand on souhaite réellement progresser, s'améliorer, ben il faut revenir sur les choses. On peut pas tout simplement laisser les choses glisser. Il faut rester conscient, il faut rester vigilant par rapport à ces choses-là. Je vous nomme les 6 piliers. Le premier, c'est abondance et style de vie. Le deuxième, énergie et vitalité. Le troisième, puissance intérieure. Le quatrième, œuvrer et contribuer. Le cinquième, relations authentiques. Et sixième, temps et priorité. Et je peux vous dire, en fait, Francis, j'ai regardé une vidéo live de lui, il disait qu'il s'inspire énormément de Tony Robbins, qui écoutait en fait tous ses audios, et sans le recopier, il s'inspire de son processus à lui en lien avec ça. Donc, bien sûr, il s'inspire de d'autres personnes aussi, mais c'est du solide. Il y a des mentors, comme on pourrait dire, des gens qui sont devenus très grands dans l'art de créer leur vie, de vivre selon leur mission, leur vision, leurs valeurs et de travailler aussi en éthique. Donc, c'est des entrepreneurs qui ne font pas n'importe quoi, donc qui travaillent en harmonie, en éthique, en conscience. Alors, ces gens-là, en fait, vont participer à nous aider. Donc, comme il dit, en fait, c'est comme s'asseoir sur les épaules des géants. Donc, ça me parle énormément. Et puis, je vous parle de ça parce que si vous avez envie de vous joindre, je vous le conseille. Je reçois absolument aucun bénéfice lié à ça. C'est pas de la vente. C'est tout simplement de tout cœur que je vous conseille ça. Et même Francis rembourse. Si vous n'êtes pas satisfait au bout de 30 jours, il va vous rembourser votre premier mois. Vous pouvez annuler n'importe quand aussi. Donc, vous pouvez faire tout simplement un mois, puis arrêter après. Francis n'arrête pas de dire que ce qu'il veut, en fait, c'est des gens qui trippent à fond. Donc, il n'y a aucun problème à rembourser les gens en cas de besoin. Mais moi, je vous dis, je trippe déjà. Et bon, là, je suis en train d'enregistrer un épisode, mais j'ai hâte de prendre du temps pour réellement profiter de cette plateforme-là et de ce contenu-là. J'ai lu surtout des livres, j'ai pas été tellement dans des communautés, donc je suis vraiment heureuse de pouvoir partager, surtout avec des Québécois dans la francophonie. C'est rare, quelque chose de cette ampleur-là. Au lancement, il était déjà 300 personnes, je sais pas à combien ils sont rendus, à mon avis, ça doit avoir doublé. Francis vise les 1000 personnes, ça m'étonnerait pas du tout que ça atteigne ça. Déjà, la page Facebook de Solutionera, si je me trompe pas, il y a 70 000 personnes qui la suivent. Alors, c'est vraiment quelque chose de gros. C'est une communauté qui vient juste de commencer, donc les gens qui vont se joindre à la communauté vont être les pionniers. C'est extraordinaire. Et il y a aussi un principe de récompense, donc quand les gens participent, en fait, ils reçoivent des points Solutionera qui permettent d'acheter tout simplement gratuitement, en fait, avec ces points-là, des formations sur le site internet de Solutionera. Donc, c'est ma super découverte de cette semaine. J'aime toujours vous partager des livres ou des youtubeurs ou des n'importe quelle ressource. Et cette fois-ci, c'est cette plateforme-là. Allez au moins jeter un œil. Je vais vous mettre le lien sur le blog encore, etikaviridis.ca/blog. Vous savez, même les coachs ont des coachs. On a tous besoin et on dit que pour progresser, il faut s'entourer de personnes qui sont plus loin que nous. Ou au moins de personnes qui ont la même vision de progression, d'expansion, qui n'ont pas de fermeture au niveau de leur vision. Des gens qui nous tirent vers le haut et non vers des gens qui nous tirent vers le bas. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, c'est pas une question de rejet, c'est vraiment une question de comprendre ce principe-là en fait. Si vous savez pas par où aller, si vous connaissez pas de livres, d'auteur, peu importe, de conférencier que vous pouvez aller voir, n'hésitez pas à me contacter, à me partager ce que vous souhaitez travailler, puis je peux probablement vous partager des ressources ou même vous aider moi-même, donc ça me fait plaisir parce que j'ai été toute seule là-dedans pendant longtemps. Je vais maintenant passer à la toute dernière section de l'épisode. Je vais vous lire des extraits de « Comme par magie » de Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert a écrit le livre « Mange, prie, aime ». C'est comme ça qu'elle est devenue très populaire. Elle avait écrit des livres avant, mais c'est comme ça qu'elle s'est vraiment fait connaître au niveau mondial. C'est un livre qui a été beaucoup apprécié en général. Et c'est drôle parce que moi, je l'ai découvert pas par ce livre-là. J'ai vu son livre en français dont je vais vous parler s'appelle « Comme par magie ». C'est comme ça que je l'ai découvert. Et en anglais, il s'appelle « Big Magic, Creative Living Without Fear ». En français, le sous-titre, c'est « Vivre sa créativité sans la craindre ». J'ai écouté ce livre-là en livre audio, lu par elle-même, en anglais, il y a presque 2 ans. Et puis, j'avais senti un baume sur mon cœur. Sur mon cœur, justement, d'artiste qui a toujours cru que je devais vivre avec mes talents, avec ce qui m'intéresse, avec ce don-là comme un fardeau. Et que finalement, je devais le laisser de côté parce que c'était pas quelque chose de vraiment important. Elle valorise énormément la créativité dans ce livre-là, et justement pour tout le monde, pas juste pour les artistes, mais c'est sûr que ça s'adresse surtout aux artistes ou aux gens qui rêveraient peut-être pas de faire une grande carrière, mais au moins de faire la paix avec leur créativité, de pouvoir justement créer dans la joie finalement, sans chercher nécessairement l'approbation ou le succès. Donc je vais vous lire plusieurs extraits que j'ai sélectionnés. C'est dur pour moi parce qu'en fait, j'aurais juste envie de vous lire le livre au complet, tellement absolument tous les chapitres sont extraordinaires et Elizabeth Gilbert écrit super bien. Sa vision de la vie, c'est une femme qui a une vision globale, holistique, donc elle croit justement en l'âme, c'est quelqu'un qui est très spirituel, je crois qu'elle croit en la réincarnation, je ne sais pas exactement. Mais c'est ça, elle a une approche très complète de l'individu. Elle a pas peur de parler de ses petits bobos. On l'a vu beaucoup dans Mange Prième. Elle a plongé en elle-même. Elle a pas peur de parler de ça. C'est quelqu'un qui est super authentique et qui défend l'authenticité. Donc, je vais vous lire mes passages préférés en espérant que ça vous sert. Puis après, je vous reviens pour vous en parler un petit peu. Au tout début du livre, Elizabeth parle d'un auteur qui s'appelle Jack Gilbert, qui porte le même nom de famille qu'elle, mais avec lequel elle n'est pas parentée de près, du moins. Elle cite un tout petit passage de ses poèmes qui m'avait beaucoup marqué. « Nous devons risquer le délice », écrivait-il. « Nous devons avoir l'obstination d'accepter notre joie dans l'impitoyable fournaise de ce monde. » Je trouvais que ça mettait déjà bien en haleine pour la suite du livre. Un tout petit passage aussi au début. Avez-vous le courage? Avez-vous le courage de donner le jour à cette œuvre? Les trésors qui sont cachés en vous espèrent que vous répondrez oui. J'ai remarqué que lorsque les gens essaient d'anéantir leur peur, ils finissent le plus souvent par tuer du même coup, sans le vouloir, leur créativité. Je ne tente donc pas d'anéantir ma peur. Je ne lui déclare pas la guerre. Bien au contraire, je lui fais de la place. Énormément de place. Chaque jour. En cet instant même, je suis en train de lui en faire. Je permets à ma peur de vivre, respirer et s'étirer, tout à son aise. Il me semble que moins je la combats, moins elle riposte. Si j'arrive à me défendre, elle en fait autant. À vrai dire, j'invite cordialement ma peur à m'accompagner partout où je vais. J'ai même un petit discours tout prêt pour la peur, que je prononce juste avant de me lancer dans n'importe quel projet ou grande aventure. Voici à peu près ce que cela donne. Très chère peur, créativité et moi, nous apprêtons à partir faire une virée en bagnole ensemble. Je crois savoir que tu seras de la partie, car tu nous accompagnes toujours. Je sais que tu es convaincu que tu as un rôle important à jouer dans ma vie et que tu prends cette mission très au sérieux. Apparemment, elle consiste à me plonger dans une panique absolue dès que je m'apprête à faire quelque chose d'intéressant. Et si je peux me permettre, je dois dire que tu t'acquittes admirablement de cette tâche. Donc, ne te gêne pas. Continue de faire ton boulot, si tu estimes que c'est nécessaire. Mais durant cette virée, je vais également faire mon propre travail, qui consiste à me donner beaucoup de mal et à rester concentré. Et créativité fera aussi le sien, qui consiste à me stimuler et à m'inspirer. Étant donné qu'il y a toute la place nécessaire dans ce véhicule pour nous trois, mets-toi à ton aise, mais n'oublie pas ceci. Créativité et moi serons les seuls à prendre les décisions en route. Comme je suis consciente que tu fais partie de la famille, je te respecte et je ne t'exclurai jamais de nos activités. Mais malgré tout, tes suggestions ne seront jamais suivies. Tu as le droit d'avoir un siège, tu as le droit de t'exprimer, mais tu n'as pas le droit de vote. Tu n'as pas le droit de toucher aux cartes routières, ni de proposer un autre itinéraire. Tu n'as pas le droit de toucher à la climatisation. Ma cocotte, tu n'as même pas le droit de tripoter la radio. Mais par-dessus tout, ma vieille et familière amie, il t'est formellement interdit de prendre le volant. Après quoi, nous partons ensemble, moi, créativité et peur, éternellement côte à côte, car nous pénétrons une fois de plus dans le royaume terrifiant, mais merveilleux, des résultats incertains. Un peu plus loin, page 79, on tombe dans la permission. Voici à quoi je veux en venir, cher lecteur. Vous n'avez pas besoin de la permission de personne pour mener une existence créative. Peut-être que l'on ne vous a pas dit ce genre de choses quand vous étiez enfant. Peut-être que vos parents étaient terrifiés par le risque sous toutes ses formes. Peut-être que c'était des obsessionnels du respect des règlements. Ou bien peut-être qu'ils étaient trop occupés à cultiver leur dépression, prendre de la drogue, ou se livrer à la violence pour utiliser leur imagination et libérer leur créativité. Peut-être avaient-ils peur du « qu'en dira-t-on ? » Peut-être que vos parents n'avaient pas un tempérament à fabriquer des choses et que ce n'étaient pas des consommateurs. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement où tout le monde est vautré devant la télévision en attendant que les choses leur tombent toutes cuites dans le bec. Ne vous en préoccupez pas. Cela n'a aucune importance. Remontez un petit peu dans l'histoire familiale. Voyez vos grands-parents. Il y a des grandes chances qu'eux aient été du genre à fabriquer des choses. Non? Pas encore? Remontez plus loin, alors. Encore. Voyez vos arrière-grands-parents, vos ancêtres, ceux qui étaient immigrants, esclaves, paysans, marins, ou bien qui faisaient partie de ce peuple qui vire les navires arrivés avec ces étrangers à leur bord. Remontez suffisamment loin et vous trouverez des gens qui n'étaient pas des consommateurs, qui n'attendaient pas, vautrés, que tout leur tombe tout cuit dans le bec. Vous trouverez des gens qui passaient leur vie à fabriquer des choses. C'est de là que vous venez. C'est de là que nous venons tous. Les humains sont des êtres créatifs depuis vraiment très longtemps, suffisamment longtemps et assez systématiquement pour que cela apparaisse comme une pulsion entièrement naturelle. Pour prendre un peu de recul, réfléchissez à ceci. La plus ancienne trace d'art humain, reconnaissable comme telle, remonte à 40 000 ans. Le vestige le plus ancien d'agriculture, en revanche, ne remonte qu'à 10 000 ans. Ce qui signifie que quelque part, au cours de l'histoire collective de notre évolution, nous avons décidé que c'était largement plus important de fabriquer des objets séduisants et superflus que d'apprendre à nous nourrir de manière régulière. La diversité de notre expression créative est fantastique. Certaines des œuvres d'art les plus anciennes et admirées au monde sont incontestablement majestueuses. Certaines vous donnent envie de tomber à genoux en sanglotant. D'autres, en revanche, non. Certaines œuvres artistiques peuvent vous émouvoir et vous enthousiasmer, mais m'ennuyer à mourir. Certaines de celles qui ont été produites au cours des siècles sont absolument sublimes et sont probablement nées d'un grandiose sentiment, grave et sacré. Mais il n'en est rien pour beaucoup d'autres. Dans bien des cas, ce sont seulement des individus qui ont bricolé pour se distraire, fabriqué des poteries un peu plus jolies, un siège plus beau, ou bien ont dessiné des pénis sur des murs pour passer le temps. Et c'est très bien aussi. Vous voulez écrire un livre, composer une chanson, réaliser un film, décorer une poterie, apprendre une danse, explorer un nouveau pays, dessiner un pénis sur votre mur. Faites donc. Qui s'en soucie? Puisque vous en avez le droit en tant qu'être humain, faites-le avec allégresse. Enfin, faites-le sérieusement, évidemment, mais ne prenez pas cela au sérieux. Laissez l'inspiration vous entraîner là où il lui plaira. Gardez à l'esprit que durant la majeure partie de l'histoire, les individus ont fabriqué des choses et qu'ils n'en ont pas fait tout un plat. Nous fabriquons des choses parce que nous aimons le faire. Nous cherchons ce qui est nouveau et intéressant parce que nous aimons cela. Et l'inspiration œuvre avec nous, apparemment parce qu'elle aime cela. Parce que les êtres humains possèdent quelque chose en plus, quelque chose de spécial, d'une inutile profusion, quelque chose que la romancière Mary Lynn Robinson qualifie de surabondance magique. Cette surabondance magique, c'est la créativité en vous qui bourdonne et palpite discrètement au fond de sa cachette. Envisagez-vous de devenir quelqu'un de créatif? Trop tard, vous l'êtes déjà. Le simple fait de qualifier un individu de créatif est un pléonasme presque risible. La créativité est la caractéristique de notre espèce. Nous possédons tous ce qu'il faut pour cela. Les cinq sens, la curiosité, les pouces opposables, le rythme, le langage, l'enthousiasme et une connexion innée avec le divin. Si vous êtes vivant, vous êtes créatif. Vous, moi et tous ceux que vous connaissez sommes le produit de dizaines de millénaires de créateurs qui décoraient, bricolaient, racontaient, dansaient, exploraient, jouaient du violon ou des percussions, bâtissaient, cultivaient la terre, résolvaient les problèmes, embellissaient tout. Tels sont nos ancêtres communs. Les gardiens de la grande culture tenteront de vous convaincre que l'art appartient à une poignée d'élus, mais ils se trompent, sans compter qu'ils sont agaçants. Nous sommes tous des élus. Nous sommes des créateurs nés. Même si vous avez passé votre enfance à vous gaver de sucreries et à vous abrutir devant les dessins animés du matin au soir, la créativité est tout de même tapie en vous. Elle est bien plus vieille que vous, bien plus que n'importe lequel d'entre nous. Votre corps et votre esprit sont parfaitement conçus pour collaborer en symbiose avec l'inspiration. Et elle cherchera toujours à vous rejoindre, exactement comme elle traquait vos ancêtres. Tout cela revient donc à dire, vous n'avez pas besoin d'un mot du directeur vous autorisant à mener une existence créative. Sinon, si vous avez vraiment l'impression qu'il vous faut la permission, voilà, je viens de vous la donner. Je viens de l'écrire en dos d'une vieille liste d'épicerie. Considérez-vous comme pleinement accrédité et aller créer quelque chose. Elle parle ensuite d'une de ses voisines qui allait se faire tatouer continuellement. Elle dit, Un jour, je lui demandais comment elle pouvait se laisser marquer le corps pour toujours avec une telle désinvolture. Elle répondit « Oh, mais vous ne comprenez pas, ce n'est pas pour toujours, c'est temporaire. » Interloqué, je lui demandai « Vous voulez dire que tous vos tatouages sont temporaires? » « Non, Liz, » sourit-elle. « Mes tatouages sont permanents. C'est juste mon corps qui est temporaire, comme le vôtre. Puisque nous sommes sur Terre que pour une courte durée, j'ai décidé il y a longtemps que je m'amuserais à me décorer le plus possible pendant que j'en ai encore le temps. » J'adore cette réponse. Vous n'imaginez pas à quel point. Car, comme Eileen, je veux mener l'existence temporaire, décorée, la plus éclatante que je pourrais. Et je veux pas seulement dire physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement, intellectuellement. Je ne veux pas avoir peur des couleurs vives, des sons nouveaux, du grand amour, des décisions risquées, des expériences étranges, des entreprises bizarres, des brusques changements ou même de l'échec. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention d'aller me faire tatouer de la tête aux pieds, simplement parce qu'il se trouve que ce n'est pas mon truc. Mais je compte bien consacrer tout le temps que je peux à créer des choses délicieuses dans ma vie, car c'est ce qui me fait vivre et me motive. Je fabrique mes décorations avec l'encre de mon imprimante, pas de l'encre de tatouage, mais mon irrépressible besoin d'écrire a la même origine que celui qu'éprouve Eileen, de transformer sa peau en un tableau multicolore pendant qu'elle est encore de ce monde. Cette idée, c'est « Eh, mais pourquoi pas? » Parce que ce n'est que temporaire. Un peu plus loin, faire montre de culot créatif, ce n'est pas se comporter comme une princesse ou agir comme si le monde entier vous devait tout. Non, c'est simplement être convaincu que vous avez la permission d'être là et que, en étant tout simplement là, vous avez la permission d'avoir une vision et une expression personnelle. Le poète David Witt appelle ce culot créatif l'arrogant sentiment d'appartenance et estime que c'est un privilège qu'il est absolument vital de cultiver si vous désirez avoir une véritable influence sur votre vie. Sans cet arrogant sentiment d'appartenance, vous ne serez jamais capable de prendre le moindre risque créatif. Vous n'oserez jamais quitter l'étouffant isolement de votre petit cocon protecteur pour vous aventurer à la rencontre de la beauté et de l'inattendu. L'arrogant sentiment d'appartenance n'a rien à voir avec l'égotisme ou le nombrilisme. Curieusement, c'est l'opposé. C'est une force divine qui vous sort vraiment de vous-même et vous permet de prendre la vie à bras le corps. Car ce qui vous empêche souvent de mener une existence créative, c'est précisément votre égocentrisme, vos doutes, votre manque d'estime de soi, les jugements que vous portez sur vous-même et ces réflexes de défense qui vous paralysent. L'arrogant sentiment d'appartenance vous fait sortir des obscures profondeurs de la haine de soi. Pas en proclamant « je suis le meilleur », mais en disant simplement « je suis là ». Je pense que ce type positif de culot, cette simple volonté d'exister et dès lors de vous exprimer, est la seule arme avec laquelle combattre le désagréable dialogue qui risque de survenir dans votre esprit dès que vous aurez une pulsion artistique. Vous voyez de quel désagréable dialogue je parle, n'est-ce pas? Celui qui ressemble à ceci. Bon sang, mais pour qui tu te prends à vouloir jouer les créatifs? T'es nul, t'es bête, t'as aucun talent, tu ne sers à rien du tout. Retourne te cacher dans ton trou. Ce à quoi vous avez peut-être passé toute une vie à répondre docilement. T'as raison, je suis nul et bête. Merci. Je retourne me cacher dans mon trou. J'aimerais vous voir engagé dans une conversation avec vous-même, plus productive et intéressante que cela. Pour l'amour du ciel, mais défendez-vous, au moins. Avant de défendre votre qualité d'individu créatif, vous devez vous définir. Vous devez d'abord déclarer votre intention. Redressez-vous et dites ce que vous êtes à voix haute. Je suis un écrivain. Je suis un chanteur, je suis un acteur, je suis un jardinier, je suis un danseur, je suis un photographe, je suis un chef, je suis un designer. Je suis ceci ou cela, et je suis aussi cet autre truc. Je ne sais pas encore exactement ce que je suis, mais je suis assez curieux pour avoir envie de le découvrir. dites-le. Faites savoir que vous êtes là, bon sang. Faites-le vous savoir, car cette déclaration d'intention est tout autant une annonce à vous-même qu'à l'univers ou à n'importe qui. En entendant cette proclamation, votre âme se mobilisera comme il se doit. Elle sera extatique même, car c'est ce pourquoi vous êtes fait. Vous pouvez me croire, cela fait des années que votre âme attend de s'éveiller à votre existence. Mais c'est vous qui devez commencer cette conversation et ensuite, vous devez avoir assez de culot pour la poursuivre. Il ne suffit pas de faire une seule fois cette déclaration d'intention et cette proclamation de culot et s'attendre à des miracles. Il faut la répéter quotidiennement, éternellement. Je me définis et me défends comme écrivain chaque jour depuis le début de ma vie d'adulte. Je rappelle à mon âme, au cosmos et à moi-même que l'existence créative est un sujet que je prends très au sérieux et que je ne cesserai jamais de créer, quel que soit le résultat, et même si j'éprouve des doutes et des angoisses. Un peu plus loin, sur l'originalité et l'authenticité. Plus j'avance en âge, moins l'originalité m'impressionne. À présent, je suis nettement plus émue par l'authenticité. Les tentatives d'originalité peuvent souvent donner l'impression d'être forcées et maniérées, alors que l'authenticité possède une discrète résonance, qui ne manque jamais de m'émouvoir. Exprimez simplement ce que vous voulez dire, et exprimez-le de tout votre cœur. Partagez ce que vous êtes poussé à partager. Si c'est assez authentique, croyez-moi, cela paraîtra original. Et voilà, c'est déjà terminé. Je vous aurais lu le livre au complet. J'ai toujours en fait énormément de plaisir à lire Elizabeth Gilbert. C'est quelqu'un qui est très humain, très sensible, qui a toujours justement été authentique. Et tout ce livre sur la créativité fait énormément de bien, comme je vous avais dit au début de l'épisode. Alors je vous encourage à aller le lire, à l'emprunter à la bibliothèque ou à aller l'acheter. Si vous l'achetez par internet, je vous mets le lien Amazon pour m'encourager, pour encourager le podcast. Donc, il y a un tout petit pourcentage de la vente qui va à la chamane si vous achetez à partir du lien que je vais mettre sur le blog d'Ethica Veridis. Ethica Veridis s'écrit ethicaveridis.ca. Alors, je vous souhaite une super belle fin de journée. On se retrouve très bientôt. Merci toujours d'être là. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook de La Chamane. Ça me fait toujours plaisir d'agrandir la communauté et de connecter avec les gens qui écoutent le podcast. Alors, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.